France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Natacha Appana. J'ai lu votre dernier roman, La Nuit au cœur. Ce qui m'a le plus marqué, c'est peut-être sa construction qui serpente comme à l'intérieur d'un labyrinthe et qui m'a procuré en tant que lectrice un sentiment d'oppression, comme si je me trouvais aux côtés de ces femmes.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un livre comme une pièce imaginaire aujourd'hui où seraient rassemblés des hommes ultra-violents et pourtant on n'aurait pas dit. Certains beaux, d'autres intelligents, parfois les deux même, dignes, fiers, bons pères, bons travailleurs, vraiment, on n'aurait pas cru. Dans ce livre toujours, des femmes qui courent à l'heure noire de la nuit où plus rien ne sauve, elles courent pour leur échapper. Certaines y arrivent, d'autres pas, et meurent sous leurs joues, sous leurs flammes, leurs coups, leurs roues. Depuis ce qu'elle appelle l'angle mort de sa vie, Natacha Appana écrit un roman qui nous fait les regarder mieux ces femmes que l'on voyait marcher, se lever, aimer leurs enfants, travailler, écrire, cuisiner, et vraiment, on n'aurait pas cru. Pour croire enfin à la violence qui aboutit au féminicide, ce livre est un chemin. Natacha Appana est notre invitée pour La Nuit au cœur, paru en cette rentrée littéraire chez Gallimard. En fin d'émission, on jouera à chercher de la musique dans les livres, et il y en a dans celui-là. Nous voilà ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Natacha Appana.
Bonjour Marie-Richeux.
La Nuit au cœur a paru aux éditions Gallimard. Il figure entre autres dans la première liste du Goncourt, celle du prix Femina, celle du prix Médicis. On est ravis de vous recevoir à ce micro. Bienvenue.
Merci.
Natacha Appana, ici tout commence par un questionnaire lecture. On entend faire le portrait de nos invités en parlant des livres qu'ils ont ou qu'elles ont trouvés sur leur chemin, en parlant de leur rapport à la lecture. Il se trouve que dans ce livre, vous évoquez la place qu'ont tenu les livres dans la relation que vous décrivez, relation d'emprise et de violence avec un certain HC. Donc il a comme une double valeur ce livre-là, forcément, en vous posant cette question. Néanmoins, qu'est-ce que vous pourriez dire de votre naissance à la lecture?
Ma naissance à la lecture, à la littérature, a lieu bien avant la rencontre avec HC. Je suis un enfant, je dirais, de cette littérature qu'on propose aux enfants des îles. C'est une littérature imaginaire, romanesque, d'aventure. J'ai été baignée par la littérature asiatique, africaine, européenne, et sans trop de contexte, je dirais. Je devais faire mon propre chemin. Je me souviens que à 10 ans, ma voisine était une prof de français et elle était abonnée à Lire.
Mmh. Et Lire Magazine, c'est un magazine assez sérieux sur la lecture.
Sur la lecture, et Lire proposait, je crois qu'il propose encore, des extraits de romans. Et ce qui fait que moi, je lisais ces extraits-là.
Mmh. Les bonnes feuilles, quoi.
Les bonnes feuilles. Et je devais dans ma tête, continuer. Et parfois, il y avait des extraits d'écrivains qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, ni dans ce qu'ils a raconté, nous dans la manière dont ils racontaient. Et je faisais une sorte de maelstrom de tous ces auteurs-là. Donc, je dirais que ceux qui ont vraiment émergé de cette période, c'est Marcel Pagnol, c'est Naipaul, c'est Kenzaburo Oe et c'est Albert Camus.
Est-ce que ce sont des autrices et des auteurs que vous avez continué de lire, Natacha Appana?
Oui, bien sûr. J'ai continué à lire Naipaul. J'ai continué à lire Camus beaucoup. Mais j'ai également découvert des femmes. Ce que on ne m'avait pas beaucoup proposé.
Et c'est arrivé à quel moment et par quelles autrices?
J'ai commencé, je crois, par Virginia Woolf. Et ensuite, assez vite...
À quel moment de votre parcours, Virginia Woolf?
Je dirais vers 15 ans. Vers 15 ans, Virginia Woolf.
Comment vous la découvrez?
Par hasard, dans la bibliothèque du collège où j'étais. Quand je dis collège, c'est parce qu'à l'île Maurice, il n'y a pas de collège-lycée, il n'y a que le secondaire qui s'appelle le collège. Et je l'ai découvert comme ça, comme je découvre aussi Margaret Atwood à ce moment-là. Et à l'école, on étudiait les sœurs Brontë et Jane Austen.
Ah oui, donc quand vous découvrez les autrices, vous commencez par quand même des grandes œuvres,
oui.
Des œuvres très, très frappantes. Vous diriez que ça change quoi pour vous en tant que jeune fille? Est-ce que ça vous fait quelque chose dont vous pourriez nous parler?
Virginia Woolf, pas tout de suite. En revanche, Jane Austen, si, parce que à l'âge où je la lis, je pense que l'amour, c'est ça. Je pense que c'est un homme à cheval, c'est les Landes, c'est une manière de dire sans dire, c'est des conventions familiales, sociales.
Vous retrouvez ce que vous pensez
absolument.
Être l'amour, d'accord.
Oui, je retrouve ce que je pense être l'amour, mais je m'identifie, ce qui est quand même assez étrange. Pour une petite fille, enfin je dis petite fille, j'avais 13 ans, mais je crois que je l'étais encore, née à l'île Maurice, puisque je comprends ce poids des traditions et ce besoin de s'en extraire.
Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites, c'est l'idée d'une compréhension ou d'une identification au-delà de nos identités. Natacha Appanah, il y a quelque chose qui est assez fort dans le fait qu'une jeune fille de cet âge-là, en effet, puisse tout à fait embrasser la condition d'une héroïne de Jane Austen.
Oui.
Ça continuait d'être votre mode de lecture, c'est-à-dire être capable d'enjamber les conditions du réel pour aller retrouver quelque chose de personnage qui pourrait vous paraître lointain.
Non, c'est très intéressant ce que vous dites et je crois que je garde un souvenir, je dis cuisant parce que ça m'en reste vraiment et c'est tellement vif dans mon esprit. C'est la première fois que j'entends lire ma professeure de littérature choisit de nous lire le premier paragraphe de L'étranger de Camus. Et à ce moment-là, j'ai vraiment, même si le mot n'est pas très bien choisi, mais j'ai plusieurs mois qui se mettent en place, c'est-à-dire que j'entends le texte. Ensuite, je comprends que ce texte-là est écrit par un homme qui est mort.
Mmh.
Et je comprends que c'est un texte qui parle d'un pays qui n'est pas le mien. Et je sais que ce texte est écrit que pour moi. Et je me dis, c'est à ça que sert la littérature, de traverser le temps, les époques, de contracter le temps et d'atteindre parfois une personne. Et je sais que c'est la première fois, même si j'ai été très émue par d'autres lectures avant, je me souviens avoir éclaté en sanglots quand j'avais lu « Prière d'un petit enfant nègre » de Guy Tyrolien, mais c'est la première fois devant cette lecture que je me dis « Ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien avoir cette magie-là dans les mains ».
Vous vous questionnez dans La Nuit au cœur de savoir, d'être certaine que ça serve à quelque chose la littérature. Il y a quelque chose où vous allez au contact de l'écrit pour presque lui demander de répondre. Vous avez l'impression que c'est en lisant que vous vous êtes petit à petit convaincue que ça servait à quelque chose, Natacha Appanah, les livres.
Oui, tout à fait, parce que parfois j'ai une éducation très, très scolaire, d'une sorte plus de dans la quantité que dans la qualité. Et par exemple, l'île Maurice n'est pas très loin de l'Afrique du Sud et nous avions nous avions des cours sur l'apartheid et j'avais l'impression de tout savoir, les dates, enfin tout ce qu'on peut savoir. Et au cours de l'adolescence, je lis Une saison blanche et sèche d'André Bring et je comprends ce que c'est exactement. En tout cas, ça me touche là où ça doit me toucher. Et je me dis, ça sert à quelque chose, ça. Ça sert d'aller au-delà des chiffres, au-delà de l'histoire. Et ça sert à... Vous savez, ce mot qu'on appelle l'empathie, ça m'a servi pour me mettre à la place vraiment, à regarder à un autre endroit que le mien.
Oui, évidemment, on reviendra là-dessus parce que c'est un des gestes forts que produit votre livre La Nuit au cœur. Vous travaillez depuis longtemps, et pas seulement avec ce livre-là, Natacha Appanah, la question de la violence entre les êtres, entre les nations, entre les races, entre les genres, de livre en livre, comme quelque chose qui est au travail. Est-ce que vous avez rencontré dans votre parcours de lectrice des livres qui vous ont aidé à la penser, avec un grand V, la violence? Plusieurs livres peut-être?
Oui, je crois que beaucoup de livres d'auteurs indiens, Naipaul, Roy, m'ont beaucoup aidé à cela. André Brink m'a vraiment éveillé à cette conscience politique et sociale qui est de vivre dans un pays où l'être humain est un étranger pour l'autre. L'être humain est souvent un ennemi pour l'autre. Après, il faut dire aussi que la poésie de mon pays natal était très chargée de cela. Mmh. Chargée à la fois d'une sorte d'ode à la beauté de ce que c'était, de ce que c'est encore le climat, la géographie, les contours, les couleurs, et alourdie par un contexte. Mais je dis ça maintenant, mais je le verbalise aujourd'hui, mais je ne sais pas, je crois que ça a infusé en moi. Et au-delà de la lecture aussi, ma vie au quotidien dans cette île qui a connu la colonisation, l'esclavage, l'engagisme, qui a connu des guerres raciales et qui connaît encore le communautarisme, c'est une vie d'enfance et d'adolescence où l'autre était me ressemblait, mais il n'était pas tout à fait comme moi, puisque je ne savais pas d'où il venait, et donc ce qu'il portait. Et donc ce qu'il portait, ça pouvait être la douceur, comme ça pouvait être la violence.
Je le disais au début de ce questionnaire lecture, vous décrivez dans ces trois histoires imbriquées, dans lesquelles on va plonger pour votre livre La nuit au cœur, la place qu'ont tenu les livres dans la relation que vous avez entretenue à la vingtaine avec celui qui s'appelle HC. C'est une relation qui donc s'est tissée aussi autour de l'amour de la littérature. Est-ce que ça a transformé votre rapport au texte, votre rapport à la lecture, Natacha Apana?
Je dirais que pendant la période où je ne vivais pas avec lui, pendant la période, je vais utiliser un mot terrible, qui est la période d'approche qu'il a eue envers moi, de séduction, et moi, quand je suis tombée en amour, puisque je ne peux pas utiliser un autre mot, en effet, on partageait énormément de cela, c'est-à-dire de l'amour de la littérature, les livres qu'il me conseillait, la poésie qu'il me conseillait. Mais à partir du jour où j'ai vécu avec lui, cela s'est tari. On n'a plus ou si peu échangé sur autre chose que ce qu'il écrivait, ou sur ce qu'il voulait écrire, ou ce qu'il avait envie d'écrire, mais que d'autres que lui avaient écrit. Et donc je ne vivais plus que par une sorte de procuration, de procuration, de procuration de ce que lui avait voulu écrire. Et donc, moi-même, ma propre ambition de littérature, d'écriture, de lecture, s'en est retrouvée comme étouffée, si vous voulez.
Est-ce que la manière dont vous vous êtes extirpée de cette histoire vous a redonné du souffle de lecture ensuite ?
J'ai toujours beaucoup lu, mais je lisais d'autres choses. J'ai très vite travaillé pour un journal à l'île Maurice où j'ai tenu des chroniques littéraires. Et comme nous ne recevions pas les livres, la librairie de Port-Louis me prêtait les livres pendant une semaine, une dizaine de livres, et je devais les lire très vite et sans les abîmer pour qu'elle les remette sur le
en vente.
Et donc je lisais comme ça énormément de nouveautés. Je crois que là, j'ai appris à tout lire. Parce que parfois, elle me donnait de la littérature, parfois, elle me donnait des polars et parfois des essais. Et moi, j'avais une telle envie de lire dans le sens le plus basique du terme.
On va parler de votre livre à vous, Natacha Apana, juste après cette chanson de Suzanne. C'est un titre de son disque sorti vendredi dernier. « Je t'accuse », une litanie de prénoms de femmes victimes de violences patriarcales et le constat révolté d'une justice qui peine trop souvent à prendre la mesure du risque, parfois mortel, qu'elles encourent.
D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis à moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. N'existes pas, pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma, mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Pour celle qui avait prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celle qui prenne la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
De même que cet horrible chiffre d'un viol ou une agression sexuelle commis toutes les 3 minutes en France sur un enfant ou un adolescent permet de saisir l'ampleur d'une violence systémique, de même, rappelez que depuis le début de l'année 2025 sont dénombrés 113 féminicides, meurtres de femmes en leur qualité de femmes en France, permet de saisir cette immense violence systémique elle aussi. Dans votre dernier livre, Natacha Apana, 3 histoires de femmes percutées, parfois jusqu'à la mort, par la violence de leurs compagnons s'entremêlent. 3 histoires à commencer par la vôtre. Vous avez 25 ans et vous courez dans la nuit pour échapper à celui qu'on appelle HC. Il plane sur chaque page de ce livre l'impossibilité de la vérité tout entière, c'est vous qui le dites. Mais parfois, ne pas tout écrire, c'est conserver un peu de pouvoir sur le récit. Car le récit est trop souvent extérieur, la violence rendue invisible, inatteignable. Et c'est ce que parvient à faire votre livre. On s'en rapproche, on ne peut plus ne pas la voir. La nuit au cœur a paru aux éditions Gallimard et on continue d'en parler avec vous, Natacha Apana. La nuit au cœur, ce titre est non pas au cœur de la nuit, que vous permet d'emblée l'inversion contenue dans ce titre?
Je dois avouer que j'ai écrit ce livre sans titre. Aucun titre ne me semblait à la fois mesuré, à la fois dire exactement. Je voulais que le mot nuit apparaissent dans ce titre parce que de là, de son image poétique, il me semblait que c'était aussi une tentative de dire l'opacité, une tentative de dire la noirceur. Mais toujours, au cours de cette écriture, j'ai été accompagnée par quelques images et notamment des cœurs de ces femmes qui battaient. Je me souvenais de la manière dont mon propre cœur battait dans la voiture. C'est une manière dont il n'a plus jamais été emballé comme cela, été agité comme cela. Et j'ai toujours pensé, si les cœurs d'Emma, de Chahinez et de toutes les autres ont battu de la même manière, on voulait sortir par la bouche, parce que c'est l'impression que j'avais, comme cela. C'est pour ça, j'ai, j'ai inversé d'une certaine manière parce que le cœur à la nuit, c'est pas tout, pas tout à fait ça. C'est plutôt la noirceur au cœur, la nuit au cœur.
Oui, parce que vous écrivez aussi que vous devez, pour écrire ce livre, retourner dans le noir, retourner dans le noir de la vie. Vous dites aussi dans l'angle mort de la vie. Alors d'abord la vôtre, et puis ensuite celle d'Emma et de Shaïnez. Mais il y a quelque chose, en effet, qui est presque opaque à vous-même dans un premier temps, comme si vous deviez écrire depuis cet endroit-là.
Oui, mais cette opacité, je l'ai voulu. Hein. C'est pas une opacité
qui est subie.
Qui est, voilà, tout à fait, ou quelque chose que j'aurais enfoui, oublié. Quand je suis rentrée chez mes parents, quand j'avais 25 ans, je me souviens d'avoir pris un certain nombre de décisions avec moi-même. Je ne savais pas si j'allais les tenir, ces promesses-là. On ne sait jamais si on tient les promesses envers soi-même. Et je savais que je voulais me donner une deuxième chance à l'existence. Et cette existence, pour moi, elle n'était valable, elle ne pouvait être valable qu'en écrivant, en lisant, en retrouvant, en tout cas, le désir que j'avais quand j'avais 13-14 ans. Toujours, même quand j'ai recommencé à écrire, quand j'ai recommencé à imaginer, je n'ai jamais cette histoire-là n'est jamais venue me gratter ou comme si j'écrivais avec quelqu'un au-dessus de l'épaule. Je n'ai jamais avancé en truchement ou en crabe ou en mettant le mot roman sur les couvertures comme si celui-ci était un antiseptique. Donc, je crois que c'est une opacité vraiment voulue, et que le jour où j'ai décidé d'y retourner, j'ai dû faire face à cela, faire face à, comme on fait face à quelque chose qui est un peu saisi dans le temps, figé, grippé, et qu'on doive le réchauffer d'une certaine manière pour qu'il reprenne forme.
D'ailleurs, depuis cette nuit-là, c'est-à-dire finalement une nuit non subie, contrairement aux autres nuits que vous retraversez, Natacha Apana, c'est aussi l'ouverture d'autres sens. C'est-à-dire que peut-être que c'est une écriture aveugle, au bon sens du terme, mais c'est une écriture extraordinairement sensorielle où tous les sens sont éveillés. Et vous, comme vous dites, il faut réchauffer ce moment de la vie, mais c'est comme si vous étiez capable d'aller chercher pour vous et pour les autres, dans cet effort d'empathie, jusqu'aux plus infimes sensations.
Et je crois que je l'ai réchauffé aussi, pour reprendre cette expression, avec ma conscience d'aujourd'hui, avec l'écrivain que je suis, avec la lectrice que je suis, avec la femme que je suis, avec la mère que je suis. Donc je l'ai réchauffé de toutes ces manières-là. Il n'y a pas qu'une manière de regarder les choses. Et aussi, je l'ai réchauffé aussi avec la conscience de ce que je... d'une sorte de compréhension, parfois un peu forcée que j'avais, je devais comprendre. Je n'ai pas tout compris, mais je devais rentrer comme prendre quelque chose et l'ouvrir et regarder les zones d'ombre pour pouvoir ensuite avoir une sorte de légitimité aussi à regarder ce qui s'est passé pour Emma et ce qui s'est passé pour Shaïnez.
Oui, et dans ce moment-là où vous vous tournez vers ce qui s'est passé pour Emma et ce qui s'est passé pour Shaïnez, et évidemment, on ne cessera de le dire dans cette émission, ce sont deux prénoms et noms de femmes qui font appel à toutes les autres femmes, Natacha Apana. Dans ce moment, il faut se tourner vers elles, leur famille, éventuellement leurs avocats, leurs enfants, enfin leur histoire. Il faut pouvoir dire son intention. Et vous dites, mon estomac se noue à chaque fois que je dois formuler mon intention littérale, littéraire, métaphorique, réelle. Aujourd'hui, vous pourriez dire quoi sur votre intention quant à votre projet d'écriture ?
C'est étrange, Marie, mais je crois que je dirais la même chose. Mm-hmm. Comme j'ai dit aux parents, comme j'ai dit à la mère d'Emma, à son fils aîné, je souhaiterais écrire un livre. Mm-hmm. C'est exactement ce que je dirais. Parce que, il me semble... Oui, c'est vrai. Et parfois, c'est une phrase qui était un peu magique. Parfois, elle était... On me disait non. Hein. Il y a certaines personnes autour de Shaïnez ou autour d'Emma qui n'ont pas souhaité me parler. Peut-être que si j'avais dit je souhaitais écrire un article, ça aurait été plus sérieux. Mais en tout cas, pour eux, pour ces personnes proches d'eux, c'est une phrase qui a dénoué quelque chose, dénoué dans le sens de l'apaisement.
C'est intéressant, est-ce que vous sauriez dire pourquoi ?
Je crois que...
Qu'est-ce qu'on dit quand on dit « je souhaiterais écrire un livre qui dépose ou ouvre quelque chose » ?
Je crois aussi que j'ai approché les choses sans presser. Mmh. Je n'ai jamais été pressée, je n'ai jamais forcé les rencontres, je n'ai jamais dit qu'ils étaient obligés ou que c'était nécessaire de me parler. Et j'avais jamais de calendrier à leur proposer en disant « ce serait bien dans 2 semaines ». Leur temps était mon temps. Je leur écrivais, je leur...
réécrivais, s'il
oui,
fallait.
Oui, voilà, exactement. Je prenais des nouvelles, j'envoyais mes livres, je voulais leur assurer de mon sérieux. Et je sais aussi que mon âge, le fait que moi-même, j'étais moi aussi une mère, et que je venais dans une sorte de... J'allais dire authenticité, mais je crois que je venais aussi dans une sorte de nudité de mon intention, sans intention cachée, justement. Ça a beaucoup apaisé.
Votre livre commence sur une image, ou presque, sur une image saisissante d'une pièce imaginaire, Natacha Apana. Il me semble que c'est un, je trouve pas le mot pour le dire en français, mais un statement, une proposition très forte pour entrer dans votre livre.
Je mets cet ouvrier, cet employé et ce poète dans une pièce vide, sans ouverture autre qu'une imposte, en hauteur, hors de leur portée. Ils se regardent en fronçant les sourcils, sans comprendre leur présence ici, à tous les trois, ensemble. Ils ne se connaissent pas, ne se sont jamais rencontrés auparavant. Ils réfléchissent aux raisons qui auraient bien pu les conduire ici, mais ils ne trouvent pas. Pas une seconde, ils ne pensent à leurs femmes respectives. Ils n'imaginent pas qu'elle puisse avoir quelque chose avec cette histoire. Dans cette pièce imaginaire, parce qu'il n'y a que dans cet endroit que je peux les réunir, parce qu'il n'y a que dans cet endroit que je peux maîtriser le récit, inverser les rôles, devenir à mon tour un petit bourreau, exercer un pouvoir d'emprise et de fascination, exiger écoute et silence. Dans cette pièce imaginaire donc, je les laisserai mariner un peu, eux qui pensent qu'ils n'ont rien en commun. Ils continueront leur inspection du lieu comme d'autres pistes sur les murs. Ils appelleront au secours en vain. Ils discuteront et se disputeront. Dans cette pièce qui n'existe que dans ma tête, il y a un dispositif que j'actionnerai quand ils seront résignés. Peut-être qu'ils sont assis désormais dos, murs, jambes tendues. C'est un dispositif qui les empêchera de prétendre à la folie, à l'amnésie, qui leur interdira de parler de responsabilité partagée. Dans ce lieu vitreux, il n'y a aucune place pour les explications psychologisantes qui ne servent qu'à disculper les coupables, à susciter l'empathie et à effacer leurs victimes. Ici, dans cet endroit qui ressemble à un envers, où toutes les saletés sont à nu, ils seront cet ouvrier, cet employé et ce poète, bouche fermée, à la merci de cette histoire.
La nuit au cœur, c'est un extrait de votre livre, Natacha Apana, commence par le chapitre La pièce imaginaire, dont Jeanne Alléos vient de lire un extrait. En réalité, le livre commence par Ils ne sont pas entièrement mauvais. Et vous décrivez presque quelque chose qui pourrait les compresser physiquement, physiologiquement, et voir le jus qui en sortirait, et ce ne serait pas un jus entièrement mauvais, Natacha Apana. Que vous permet cette pièce au début du livre ?
Quand j'ai commencé l'écriture, ce que je veux dire, c'est que le moment où je m'attelle vraiment au gros du sujet, au gros de
du travail,
de cette intention, c'est déjà l'année 2024. Donc j'ai travaillé l'année 2021, 2022, 2023 à attendre, à écrire, à lire, à prendre des notes, enfin tout ce travail qu'on peut imaginer en amont. Et quand je commence l'écriture, je ne commence pas par ce chapitre, je commence par ma partie. En sachant que ce n'est pas la partie qui va ouvrir vraiment...
La partie où vous parlez de vous Absolument. Et de votre histoire Absolument. Et de la violence que vous avez subie.
Voilà. J'attends comme j'ai attendu pour tous mes autres livres la première phrase. Et je l'attends patiemment, je l'attends avec envie, je l'attends avec enthousiasme. Et quand j'écris cette première partie qui me concerne, quand je raconte, quand j'explore le trou dans lequel je suis tombée, je me rends compte de la complexité de ces hommes-là. J'avais à ce moment-là une connaissance assez complète de qui était MB, donc le mari de Chahinez, et qui était RD, le mari d'Emma. Et là me vient cette...
Qui les ont toutes les deux tuées.
Tout à fait.
Atrocement.
Atrocement, avec un élément de la punition du corps, de l'esprit, et une punition sur la voie publique aussi. Mmh. Hein, les deux ont été tués et laissés sur la rue. Donc, je me dis, alors que ce n'était pas du tout mon intention au départ, qu'il faut que je parle d'eux, mais qu'il faut que je parle d'eux de manière ramassée, mais qu'il faut quand même que je réussisse à grands traits à faire un portrait où, dans ce portrait-là, il émergerait quand même l'éducation et l'amour qu'ils ont reçus. Parce que les trois ont eu une éducation et ont eu l'amour de leur père et de leur mère. Et à un moment donné, ils ont fait le choix de la violence. Ça, c'était pour le propos. Et l'intention structurelle, pour moi, c'est vraiment parce que je ne suis que ce que je suis, c'est-à-dire une romancière, et que mettre ces trois hommes-là dans cette pièce imaginaire, ça me permettrait de prendre possession entièrement, pleinement, littérairement, mot à mot, cette histoire-là, de leur dire que c'est aujourd'hui, je racontais... Emma racontait, Chahinez racontait, mais toutes ces autres racontaient aussi.
Oui, et puis il y a quelque chose qui rend extrêmement saillant, quasiment concret, ce que parvient vraiment à faire le livre de bout en bout, pour les choses les plus belles et pour les choses les plus affreuses, Natacha Apana, ce que ça veut dire que d'avoir le pouvoir sur un récit. C'est-à-dire qu'on pourrait le dire de manière intellectuelle, mais en mettant par des phrases trois hommes dans une pièce et en fermant cette pièce comme vous le faites avec les mots, vous démontrez aussi par une image métaphorique, par la langue, qu'est-ce que ça veut dire que reprendre le pouvoir sur un récit, qui est quelque chose qu'on entend beaucoup, ça veut dire aussi qu'on commence la plongée dans ces différents trous de violence, Natacha Apana, avec l'impossibilité de se dire que ce sont des monstres. Puisque vous commencez votre roman en disant « ils ne sont pas entièrement mauvais ». C'est-à-dire que le refuge qui peut être celui de l'inhumanité, de l'exception, du monstre, de la pas de chance, ça n'est pas possible.
Non, ce n'est pas possible. Je pensais à la phrase d'Anna Arendt qui est la banalité du mal. Je crois qu'il est important de se dire que ça peut être un frère, ça peut être ça a été des maris, ça peut être un père, et qu'ils sont là à côté de nous, et que les dépeindre comme des monstres, les dépeindre...
C'est s'empêcher de le penser.
Mais bien sûr, c'est les dépeindre aussi comme une sorte d'incarnation du mal, de ce qui existe de pire, et donc cela les éloignerait de nous. Cela ne nous protégerait pas, au contraire. Cela ferait que nous ne serions plus vigilants. Et en réalité, c'est vrai qu'ils ne sont pas entièrement mauvais.
J'aimerais qu'on écoute pour poursuivre la voix d'une psychiatre spécialiste des mécanismes d'emprise et juste après ça un extrait de votre livre où vous faites un parallèle tout à fait troublant entre l'approche de Requin et l'approche de ces hommes-là.
Une relation d'emprise se met en place à travers plusieurs étapes. Une première étape est une étape de séduction, ensuite une étape de captation et enfin de conditionnement. Petit à petit, la femme est subjuguée. Tout ça, ce sont des procédés qui empêchent de penser et qui empêchent de développer son esprit critique. Au fond, on a le sentiment qu'on n'y comprend rien et que comme on a été séduit, on va finalement accepter. Le problème, c'est qu'à force de céder pour telle ou telle raison, les femmes vont progressivement considérer que c'est normal et elles vont perdre toutes les capacités de partir. Généralement, ce qui fait des clics, c'est soit un événement extérieur, par exemple, le conjoint est allé vraiment trop loin et quelqu'un d'extérieur va dire « Mais comment tu acceptes ça? Comment tu acceptes qu'on te traite de cette façon ?» Mais le plus souvent, c'est quand la violence se déplace sur les enfants.
Au début, il décrit de longs cercles concentriques d'observation suivis de charges frontales et d'approches croisées. Vous deviendrez le point central de ces approches. Et il reviendra systématiquement au contact par tous les moyens possibles, en s'acharnant et en devenant insistant. Il montre une fois encore sa supériorité territoriale, par son langage corporel. C'est préférable de quitter la zone, sans perdre trop de temps, avant qu'il ne devienne trop inquisiteur. Maintenir un maximum de distance et ne jamais reculer. Il faut aussi toujours garder une position verticale, un contact visuel, et réagir le moins possible à ses approches. Ce « il » pourrait être le maçon, MB, le poète, HC, le chauffeur, RD. Ces cercles concentriques d'observation pourraient être une métaphore de la manière dont il progresse en vous isolant peu à peu de votre entourage, les amis, les collègues, les voisins, la famille, les enfants. C'est une emprise de sape graduelle. Votre style vestimentaire, votre esprit sain, votre libre arbitre, votre capacité à prendre une décision. Cette sape est accompagnée de temps en temps par des opérations de séduction. Il est beau parleur, il est beau garçon, il est poli, il est brillant. Les charges frontales seraient les premières bousculades, les premières claques, les insultes déguisées, les humiliations. Les approches croisées seraient ces différentes stratégies de surveillance. Il regarde votre téléphone. Il vient vous chercher à votre travail sans vous prévenir. Il écoute vos conversations. Il vous suit. Il se tapit dans des buissons, dans des voitures, dans des recoins. Il vous attend. Il vous dit qu'il part travailler, mais il rentre un quart d'heure après. Il vous dit qu'il part faire des courses, mais il revient sur ses pas. Il veut savoir ce que vous faites en son absence. Il veut savoir qui vous êtes quand il n'est pas là. Il a tout son temps. Il vous regarde même dormir. Les approches croisées seraient aussi les silences lourds comme du béton qu'il impose. Ses dernières paroles, avant de cesser de vous parler, sont souvent « Tu sais ce que tu as fait ?» Les regrets exprimés à coups de cadeaux et de belles paroles. Les sas de répit où il redevient l'homme dont vous êtes tombée amoureuse. Et vous vous persuadez qu'il a l'intention de changer, qu'il peut changer, qu'il change déjà. Et ça dure une semaine, deux semaines, parfois un mois entier. Quand vous êtes le point central, il est souvent trop tard. Vous êtes encerclé, vous êtes pris au piège, enserré dans ses raies, et il n'y a plus de répit. Votre entourage est las de vos problèmes. Vous avez promis tant de fois à vos amis, à votre famille que vous alliez partir. Ils vous ont consolé, ils vous ont écouté, ils vous ont parfois aidé à faire votre sac. Mais vous voilà encore avec lui, et vous ne vous confiez plus à personne désormais. Vous êtes seul, terriblement seul. Vous êtes épuisé. Il devient insistant, il s'acharne. Sa supériorité territoriale s'exerce autour de vous parce que son territoire, c'est vous. Vous lui appartenez. Votre corps, votre peau, vos formes, vos organes, vos fluides, vos mouvements, vos cheveux, votre ventre, votre vagin, votre cul. Votre esprit, votre cerveau, vos pensées, vos rêves, votre bouche, votre langue, vos paroles, votre gorge, votre gorge. Votre gorge. Son langage corporel, vous le connaissez par cœur désormais, et quand il s'approche de vous, vous transpirez une sueur immédiate sur tout le corps du cuir chevelu, jusqu'à la peau tendre entre les orteils. Si vous quittez la zone, il faut être sûr qu'il ne puisse pas vous retrouver, parce qu'il ne le supportera pas, tant il a confondu vos existences, tant qu'il ne vous a pas possédé entièrement. Si vous lui tournez le dos, si vous lâchez le contact visuel, il vous étranglera, il vous frappera, il lancera la voiture sur vous et vous roulera sur le corps, et vous tirera deux balles dans la cuisse. Il vous immolera, il vous effacera de la surface du monde. Ce « il », dans cet extrait d'article, n'est ni un maçon, ni un poète, ni un chauffeur. Ce « il » n'est pas un homme. Ce « il » désigne un requin. Et ce passage est extrait d'un article sur les différents comportements et approche du squale.
Je le disais en introduction, Natacha Apana, ce que produit votre texte, c'est l'impossibilité de ne plus voir la violence faite à ces femmes, jusqu'à parfois jusqu'au féminicide. Mais ça produit aussi quelque chose de l'ordre de la compréhension. Et on vient d'entendre un long extrait de La nuit au cœur, où c'est assez palpable, en passant par l'extrait de la technique d'approche du requin squal. Vous produisez quelque chose qui permet de comprendre.
Merci. Je me souviens très bien de cet article. J'aimerais vous dire que la structure en cercle, en sphère, m'est apparue très vite. Mais il se passe quelque chose quand on commence à écrire et quand on commence à travailler sur le langage et la syntaxe et la grammaire et le vocabulaire précis, c'est que votre pensée même s'affine au cours des phrases, que votre manière même d'appréhender, de prendre dans vos mains ces choses, ces phrases et également cette situation, elle se précise.
Mais comme si écrire augmentait votre lucidité.
Absolument. En tout cas, pour moi, ça a toujours été le cas. Souvent, je commence en ne comprenant pas tout à fait, et je termine en comprenant un tout petit peu plus. Et ce cercle-là revenait constamment. Je me souviens du voisin de Chahinez Daoud qui m'avait dit que son mari, le matin, il partait, mais qu'il revenait 10 minutes après, qu'il revenait une demi-heure après, et qu'il changeait de stratégie tout le temps. Je sais que le mari d'Emma a fait la même chose, et moi j'ai vécu cela très longtemps.
D'une surveillance de plus en plus accrue.
De plus en plus accrue.
Mais cette, et sournoise.
Cette surveillance, c'est une chose, mais ce qu'elle produit, c'est une chose beaucoup plus complexe et nuancée, et en sorte de, comment dire, comme une seconde peau, c'est la peur. Ça éveille une peur qui n'est pas la peur ordinaire. C'est une peur qui est constamment là, comme un chien fidèle à nos pieds.
Un chien battu.
Oui, un chien qui gênerait tout le temps, mais qui serait toujours là. Et je sais que je cherchais qui d'autre dans le monde animal
agit comme ça,
procédé comme ça, et c'est comme ça que je suis tombée sur cet article-là. Et je me suis dit, c'est exactement la même chose. Et que si on enlevait le mot requin, on pourrait tout à fait dire que c'est un homme.
On va écouter la voix de Auréa. Elle vous a lu, Natacha Apana, elle vous adresse une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Natacha Apana. J'ai été marquée par votre style, poétique, percutant, qui contient une forme de violence, mais qui parvient aussi à conserver une certaine pudeur. Et j'étais particulièrement sensible à votre réflexion, à cette forme d'autocritique pendant l'écriture, sur la possibilité de s'approcher de la vérité, de s'approcher de la vérité de ces femmes, sans les trahir, ni les réduire à leur mort. Et c'est pourquoi je voulais vous demander, pensez-vous que la littérature, par sa profondeur, par sa richesse aussi, peut aller encore plus au cœur du réel que le journalisme? Merci pour votre réponse.
Merci à vous, Auréa, pour cette lecture et pour cette question. En effet, j'ai pas besoin de sous-titrer la question d'Auréa, en fait.
Pour moi, ce sont deux choses différentes. Le journalisme répond à plusieurs questions, quand, quoi, comment ou pourquoi, et s'attache aux faits seulement. La littérature, elle est à côté, elle est dans la nuance, elle est dans la complexité, elle est dans le temps. Elle peut faire contracter le temps comme elle peut faire fondre le temps au soleil. Elle peut attendre très très longtemps. Moi, j'aime à penser que La nuit au cœur est un livre sur le temps et c'est un livre qui attend.
Qui attend quoi ?
Qui attend qu'on le trouve, Vous savez, depuis qu'il est sorti, il y a des femmes qui viennent me dire je ne peux pas le lire. Je sais que ça va me faire mal ou ça me rappelle quelque chose. Et je leur dis, et elles l'achètent quand même. Et alors je leur dis, ben, vous savez, c'est un livre qui vous attendra. Comme moi, ça m'a attendu.
Il y a quelque chose ici que produit la littérature et que parfois n'a pas le temps, l'espace ou le soin dans le journalisme ou la manière dont sont racontées ces histoires de très grande violence. Natacha Apana, c'est la possibilité de faire vivre quelque chose de Shahinez et de quelque chose de Emma. Parce que dans La nuit au cœur, le titre, il y a, comme vous l'avez dit, des cœurs et des cœurs qui battent. Et peut-être que ces cœurs battent de peur, d'effroi, mais ces cœurs battent aussi de vie. Et on sent que votre écriture les entoure de ça. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment dire, il y a une image de ces femmes-là qui devient bien autre chose que juste Shahinez Daoud immolée par le feu par son mari.
Absolument. Mais vous savez, quand j'ai commencé et quand j'ai avancé, progressé, au début, Shahinez, elle était pas effacée. Hein. Pour elle, c'est pas tout à fait le cas, même si l'intention de son mari était clairement celle-ci.
Disons, en la brûlant.
En la brûlant, tout à fait, en effaçant les contours de son corps. Il y avait, par toutes les voies politiques, sociales, d'actualité médiatique, qui ont recouvert sa propre voix et sa propre existence par toutes les interprétations qu'on peut avoir par sa mort, comme si sa vie était regardée à l'aune de sa mort. Pour Emma, ça a été l'effacement total, elle n'existait plus. Et pourtant, au début, moi je me souvenais parfaitement de ce qu'était Emma. Je me souvenais combien elle était, et je n'ai pas d'autre mot pour elle, elle était pétillante. Elle souriait tout le temps, elle adorait mettre des jupes un peu amples et mordorées de couleurs. Elle s'occupait très très bien de ses enfants, elle était toujours très généreuse. Et quand j'ai parlé aux parents et aux amis de Shahinez, ils me parlaient tous de son rire. Ils ne pouvaient pas... comme s'ils étaient, eux, emprisonnés dans son rire. Et moi aussi, je l'ai entendu. Et la vivacité même, j'allais dire la vivance, je ne sais pas si c'est un mot qui existe.
Je ne sais pas, mais prenons-le, il est beau.
Oui, voilà, la vivance de ces femmes-là m'apparaissait de jour en jour.
Mais elles vous apparaissaient justement au regard de leur mort, vous
pensez? Non, justement, elles dépassaient cela. Elles éclataient dans la lumière et elles m'ont permis aussi de me retrouver, moi, dans ce que j'avais de joyeux, dans ce que j'avais de... Voilà, un peu naïve, un peu innocente, d'une sorte de désir un peu fou que j'avais d'écrire à ce moment-là. Et ça, c'était tellement... Ça, je ne pouvais faire autrement que cela.
Oui, parce que dire ça. Oui, en faisant le trajet vers leur vivance, je vais garder ce mot-là, Natacha Apana, vous pouviez aussi faire le trajet vers votre propre vivance qui avait été saccagée par cette relation violente que vous dépeignez entre 17 et 25 ans. Donc c'est aussi ce trajet-là que vous faites. Parce qu'on a dit, je retourne dans le trou noir, je retourne à la nuit, je retourne à l'angle mort de la vie. Mais à la fin du texte, il y a quelque chose qui vous permet de vous retrouver à un autre endroit que seulement l'angle de mort et l'angle nocturne.
Absolument, absolument. Je crois que c'est un livre aussi d'aller-retour. C'est bien sûr, le départ, c'est la mort, ou alors la mort frôlée. Mais la vie de ces femmes, de leurs enfants aujourd'hui, m'ont rattrapée. Et la vie que je mène aujourd'hui aussi, elle est là, elle est présente. Donc, c'est quelque chose que j'avais à cœur de ne pas écarter. Elles sont, si vous voulez, ces hommes n'ont pas réussi. C'est ça que je veux garder. Ils n'ont pas réussi leur dessein.
Totalement, en tout cas. Je voudrais qu'on écoute un extrait d'une série documentaire produite par Pauline Chanu et réalisée par Marie Placé, diffusée sur France Culture et consacrée au phénomène des féminicides en 2024. C'est la voix de Nicolas de Bailly, frère de Nathalie de Bailly, qui a été tuée.
Ma sœur s'est rendue à la police quasiment tout de suite, c'est-à-dire une dizaine de jours après la rupture. Elle va pour la première fois au commissariat de Lille, en atteste la première main courante. Il est dit qu'il n'accepte pas la rupture qui revient toujours la voir, qui s'est énervée, qui lui a dit qu'il passerait par les jardins ou le toit pour rentrer chez elle. Donc clairement, c'est une main courante où on voit qu'elle a peur. Et l'intitulé de la main courante, c'est « Différent entre époux, concubins ». S'ensuit très rapidement la seule et unique plainte qu'elle a réussi à déposer le 9 mars 2019. Et dans cette plainte, elle dit le nom des amis qui relaient les menaces, qui lui disent d'être prudente, de bien fermer sa porte à clé, de faire attention à elle, parce qu'il va lui mettre des coups de pression, qu'il allait rôder autour de chez elle avec des intentions pas louables. Et on peut lire plus loin dans la conclusion de la plainte, importance du préjudice subi par la victime en raison de la gravité et des circonstances de l'infraction, néant. Aucune mesure de protection n'est à mettre en œuvre. Et en plus, cette plainte ne sera jamais transmise au parquet. On jette cette plainte à la poubelle. Elle dépose une dernière main courante. Elle dit que son pneu a été dégonflé, son compte Facebook a été piraté, qu'il y a un logiciel espion qui est apparu sur son téléphone, qui se trouve, lui, régulièrement en terrasse du café face à son lieu de travail. Et il se passe rien. Et nous, ce qu'on découvre après, c'est qu'en plus, il avait déjà un historique de violence conjugale. C'est-à-dire qu'il avait déjà, dans son dossier, des mains courantes et des plaintes pour violence. Mais ça, il le voit quand ma sœur se présente. Et 5 jours après, il fait ce qu'il a dit. Il l'enlève, il la met dans un coffre, il l'emmène chez lui et il la tue.
Un extrait de cette série documentaire diffusée sur France Culture en 2024, Natacha Apana, dans le cadre de l'écriture de La Nuit au cœur, vous rencontrez aussi un avocat, vous rencontrez un appareil judiciaire en marche, notamment autour du meurtre de Shaïnès Daoud. En quoi est-ce que l'approche de la justice française pour ce livre-là vous a permis, puisqu'on parlait tout à l'heure d'un trajet de compréhension, de comprendre mieux notamment les apories de cette justice, les ratages de cette justice, dont on vient d'entendre là un récit glaçant.
Moi, j'arrive après. Hein. J'arrive à partir du... Voilà, Shaïnès Daoud est déjà morte. Emma est déjà morte. Et tout en me rendant compte, notamment quand j'assiste au procès du mari de Shaïnès en mars 2025, combien la justice... à ce stade-là, c'est-à-dire au moment du procès et de la sentence, combien elle peut être exemplaire, combien elle dit les choses, combien elle marque les choses, je me rends compte qu'il y a un marais dans ce que le mot marais a de plus gluant, de plus imprévisible, qui est à partir du moment où une femme rentre dans un commissariat et dépose plainte.
Enfin, maintenant, j'espère qu'elle peut, mais...
Tout dépend du contexte, etc. Mais à partir du moment où elle pose plainte, il y a là comme un no man's land. Comme si ça dépend des villes, ça dépend de la personne, ça dépend à la fois de la plaignante, à la fois du policier qui est en face, ça dépend parfois de la fonctionnalité du serveur, ça dépend de la manière dont les services se connectent, ça dépend d'un certain nombre d'éléments qui échappent et qui font que la gravité de ce que ces femmes racontent leur échappe.
Et n'est pas entendue. Il y a quelque chose dans La Nuit au cœur qui fait que... Il y a vraiment quelque chose dans votre geste littéraire qui fait qu'on ne peut pas ne pas entendre.
Mais pourtant, ces femmes-là ne sont pas entendues. Mmh. Beaucoup ne sont pas entendues. Je me suis demandé si ce n'est pas parce que ces choses-là, ces crimes conjugaux, ont rapport justement avec la conjugalité. On rapport avec l'intimité. L'intimité doit toujours se garder entre quatre murs. L'intimité est entre deux personnes, l'amour, le désir.
Donc en n'entendant pas, c'est comme si on faisait un geste comme ça de pas laver le linge sale en public. Quoi.
C'est un peu ça. On faisait le geste de dire qu'il y a toujours deux versions à la conjugalité. Vous savez, ce terme qui n'existe plus, heureusement, qui s'appelle le crime passionnel, et je crois que, même s'il n'existe pas, et là, on parle de mots encore, je crois que ce terme a infusé dans les esprits. Je me demande si c'est cela. Parce que Parfois, je me heurte à un mur. Je me dis, mais pourquoi, comme le témoignage très touchant qu'on a entendu parler, les choses sont dites avec clarté. Et toutes les femmes l'ont dit à leur entourage, il va me tuer. Et pourquoi il va me tuer, ces quatre mots-là, dans cette phrase simple, ne sont pas entendus.
Le book club continue.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
Et tous les book clubs, se terminent en musique. On cherche de la musique dans les textes, Natacha Apana. On en a trouvé dans La Nuit au cœur. Je disais que une des réussites de votre livre est de réussir à faire miroiter quelque chose de la vie de ces femmes et parfois de ces femmes et de leurs enfants. On se quitte avec un extrait de votre texte. Parfois, sur ce chemin, Shaïnès filme ses trois enfants avec son téléphone. Elle les appelle mon amour, mon chéri, mon bébé d'amour. Ils regardent leur mère, ils font parfois des petits pas de danse, ils sourient, innocents et joyeux. Shaïnès envoie ensuite ses courtes vidéos à ses parents, à ses sœurs en Algérie. Elle aime garder le contact comme ça, en filmant son intérieur ou le quotidien des enfants. En fin d'après-midi, quand elle a trop à faire, la lessive, le repas, le ménage, et trois enfants qui chahutent, elle leur laisse un moment son téléphone. Ils enregistrent alors des petites vidéos TikTok avec des filtres qui leur font un visage de bébé et les coiffent d'une couronne de fleurs. En ce moment, ils apprennent une chorégraphie sur une chanson de Weshden. Fallait réfléchir, la vie ça va trop vite, prends ce que t'as profite, prends ce que t'as profite. Sur une des vidéos, on les voit faire les fous, sauter, danser. Et soudain, il y a Shaïnès qui passe en arrière-plan, les regarde et entre dans la cuisine.
C'est les restes du quartier, les voyous sont tombés là. Et elle en joue, tout son visage elle innove. Mais bon voilà, elle a joué, elle a perdu. Il a dragué, le bal est tombé, il la rappelle plus. Fallait réfléchir, la vie ça va trop vite. Prends ce que t'as profite, prends ce que t'as profite. Fallait réfléchir, la vie ça va trop vite. Prends ce que t'as profite, prends ce que t'as profite. Il sort d'un bac plus 4, dans sa vie tout va bien. Il est en couple, ça date, mais madame n'est plus un petit soin. Il va dans une soirée, mais bon là y a son ex. Il s'est fait cramer, allait se marier, mais elle a dit next.
C'est très bizarre d'écouter cette chanson après le paragraphe qu'on a lu. C'est très amer. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Natacha Apana, pour parler de La Nuit au cœur, paru aux éditions Gallimard. Au son, aujourd'hui, c'était Nicolas Leroulet à la réalisation. Vivien Demeyer, un immense merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser, préparer, programmer ces émissions. Jeanne Aléos, Garance Roubieux, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Cyril Marchand et Alexandre... Alexandra Laïbegovic, avec qui vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club.